Oui, nous sommes heureux, cela nous a été rappelé au début de ce culte, de pouvoir nous réunir. Nous sommes heureux de pouvoir être encore à l'écoute de la Bible. Je reviens extrêmement béni de 3 jours de séminaire à l'Institut biblique de Genève, où j'ai été à nouveau l'heureux témoin de la grande bénédiction que l'on reçoit parce que l'on est au bénéfice de personnes qui nous aident à mieux comprendre la Bible. C'est simple, hein ? C'est aussi simple que ça. Et on comprend mieux la Bible, et on est tellement mieux, tellement plus heureux. Quel orage terrible hier soir ! Quel privilège d'être bien à l'abri ! C'était mon cas. Image très forte du refuge que Dieu veut être pour nous en tout temps. Je vous propose de continuer ce matin la lecture du livre de Jonas que nous avons commencé il y a quelques semaines. Nous avons lu le chapitre 1 et je vous propose de lire ce matin le chapitre 2 de ce prophète assez connu parmi les 12 petits, plutôt moins connus. Je vous rappelle rapidement que dans le premier chapitre, nous avons vu que Jonas, désobéissant à Dieu, a pris un bateau dans la direction opposée à celle que Dieu lui avait indiquée. Dieu lui demande d'aller à Ninive, à l'est. Jonas trouve un bateau qui va à Tarsis, à l'ouest. Il saute dedans. Aujourd'hui, nous lisons le chapitre 2. Ça, c'est la fin du chapitre 2. Il sort du poisson. Le chapitre 2, c'est le voyage en entier. Il est avalé, il vit des choses extraordinaires et fin du voyage, dans le poisson. Chapitre 3, Jonas arrivera enfin à Ninive et annoncera, plutôt en reculant, mais annoncera quand même, le message que Dieu a voulu qu'il annonce aux Ninivites. Et au chapitre 4, Jonas est tellement perturbé parce qu'il a été écouté. Vous avez peut-être du mal à suivre, mais si vous connaissez l'histoire, vous le reconnaissez. Il est tellement triste que les gens aient écouté la prédication qu'il va bouder sur la colline. Bouder, c'est peu dire. Il réclame la mort. Et Dieu va lui accorder une leçon de plus, avec un ricin qui va naître en quelques heures, qui va mourir en quelques heures, et toute une leçon. Voilà, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, je ne vais pas dire dans le bateau, mais dans l'aventure de Jonas. Et je lis donc le chapitre 2. Les paroles vont être projetées normalement. Le Seigneur envoie un grand poisson pour avaler Jonas. Jonas reste dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Dans le ventre du poisson, il prie le Seigneur son Dieu et dit « Je suis très malheureux, alors je crie vers toi, Seigneur. » Et tu me réponds « De la profondeur de la mort, j'appelle au secours et tu entends ma voix. Tu m'as jeté dans un trou profond au cœur de la mer et l'eau m'entoure. Toutes tes vagues et toute ton eau tombent sur moi. Et moi je dis « Tu m'as chassé loin de tes yeux, pourtant » Je veux revoir ton temple saint. L'eau m'arrive jusqu'au cou. La mer m'entoure. Des herbes s'enroulent autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'au pied des montagnes. Je suis dans le monde des morts. Et les portes sont fermées à clé derrière moi, pour toujours. Mais toi, Seigneur mon Dieu, tu me fais remonter vivant de ce trou. Seigneur mon Dieu, je vais bientôt mourir. Alors je me souviens de toi, Seigneur, et ma prière monte près de toi dans ton temple saint. Ceux qui adorent les faux dieux n'ont aucune chance d'être sauvés. Mais moi, je chanterai ta louange, je t'offrirai des sacrifices, je tiendrai les promesses que j'ai faites. Oui, c'est toi qui sauves, Seigneur. Alors le Seigneur donne cet ordre au poisson. Rejette Jonas sur la terre. Et aussitôt, le poisson obéit. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ce récit met en évidence la bonté, la souveraineté de Dieu qui conduit son prophète récalcitrant. Dans ce lieu très particulier de recueillement, Jonas prie. Et l'essentiel du texte que je viens de lire est la prière de Jonas. Dans cette prière, Jonas affirme deux vérités que je vous propose de bien entendre ce matin, réentendre. Dieu est un secours en tout temps, partout, quelle que soit la profondeur. Et deuxièmement, Dieu nous offre le salut et il est le seul qui peut le faire. Premièrement, Dieu est souverain. Deuxièmement, Jonas prie. Troisièmement, Dieu est un refuge. Quatrièmement, Dieu est le sauveur, le seul sauveur. Tout d'abord, Dieu est souverain. Verset 1, le Seigneur envoie un grand poisson pour avaler Jonas. Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois et qui n'auraient peut-être pas en tête le chapitre 1, Jonas, sur ce bateau où il est monté pour s'enfuir, va faire connaître, il en est la cause, une terrible tempête à tout l'équipage et au bateau, et à tous les bateaux du coin. Parce que Dieu l'arrête, veut l'arrêter. Les marins, dans leur piété, vont crier à leur Dieu, leur au pluriel, Dieu au pluriel. Jonas, lui, n'est pas dans l'état d'esprit qui correspond à la prière. Il descend dans la cale et il s'endort. La tempête continue, les hommes réveillent Jonas. Jonas confesse son péché en proclamant que son Dieu est le grand Dieu de tout l'univers, mais qu'il est en train de faire le contraire de ce qu'il lui a demandé. Les hommes comprennent qu'il est la cause de cette tempête. Jonas leur dit qu'ils doivent le jeter par-dessus bord. Eux continuent à prier parce qu'ils voudraient épargner Jonas. Mais rien n'y fait. Et ils jettent Jonas par-dessus bord. La mer se calme et notre texte commence. Dieu envoie un grand poisson pour avaler Jonas. Dieu est souverain. Verset 11, le Seigneur donne cet ordre au poisson, rejette Jonas sur la plage. Et le poisson obéit. Métro d'il y a 3000 ans. Dieu est souverain, il commande les gros poissons. On ne sait pas ce que c'était. C'était un gros poisson, quelquefois appelé baleine, plutôt pas, nous disent les scientifiques chrétiens. Gros poisson. Dieu commande aussi les petits oiseaux. Matthieu 5, 6, 7 nous disent que Dieu prend soin des petits oiseaux, les dirige. Prend soin de la création, des fleurs. Et il connaît même le nombre de cheveux sur nos têtes. Cela fait plus sourire certains que d'autres. Mais c'est dit, Dieu sait tout. Et Dieu est souverain. Certains se moquent de Jonas 2. D'autres, en se penchant sur Jonas 2, ont dit, non, c'est possible. Il y a des gros poissons qui peuvent avoir la bonne taille, une gueule assez grosse pour que ça passe, un ventre assez gros pour qu'on puisse y rester et qu'il y ait une poche d'air. C'est possible, mais c'est un miracle, parce qu'il fallait qu'il arrive au bon moment quand même. Donc Dieu est souverain. Et ça, c'est que le chapitre 2, c'est un gros miracle, on est d'accord. Mais toute l'histoire de Jonas nous dit que Dieu est souverain. Le genre de marin du bateau sur lequel Jonas est monté, c'est quand même étonnant. C'est ce qu'on appelle un hasard avec un D majuscule. C'est Dieu qui est aux commandes quand même. La tempête qui se déclenche, terrible, c'est quand même un clin d'œil de Dieu qui agit. La même tempête qui s'arrête au moment même où Jonas est passé par-dessus bord. Le poisson qui arrive pile au bon moment, La fin du trajet, pile au bon endroit. Poisson, il aurait pu le rejeter ailleurs qu'à la station de métro sur la plage. Et puis, si on continue, on y reviendra dans les semaines qui suivent, la réponse des Ninivites à une prédication venant d'un prédicateur pas du tout désireux que sa prédication soit entendue, la naissance, la mort d'un ricin, etc. Toute l'histoire de Jonas nous dit que Dieu est souverain. Et 2600 ans environ après, où en sommes-nous? Est-ce que vous apercevez que Dieu est souverain? J'ai bien dit apercevoir. Dieu est souverain, c'est certain. Mais quelquefois, on se demande s'il est aux commandes. Est-ce que Dieu nous aide à repérer ce qui nous rappelle qu'il est souverain? Qu'il est celui qui peut permettre qu'un atelier précis du séminaire d'Évangile 21 touche un thème qui m'a énormément aidé hier après-midi quand j'ai reçu un SOS d'un ami de complètement ailleurs. C'est étonnant, non? Dieu peut permettre que la météo soit sèche jusqu'à ce que le portail de la bonne nouvelle soit fermé hier soir. Il aurait pu permettre qu'il ait de la pluie, je suis d'accord. Mais quand il nous fait des cadeaux, on peut y voir des clins d'œil. Il permet qu'une voiture démarre alors que quelqu'un a laissé les phares. Ça rime. Il a permis dans ma vie un jour que ma bonne voiture ne démarre pas parce qu'il ne fallait pas que j'aille. C'est certain, il ne fallait pas que j'aille. Ma voiture, elle est bonne. Dieu est souverain. Il m'a mis à cœur de prier pour Antoine, un mercredi soir, il y a 30 ans, dans ma chambre d'étudiant. Je ne pouvais pas dormir, je devais prier. Je me suis levé, j'ai prié. Qu'est-ce que j'ai appris samedi par Antoine? Que sa semaine avait été très, très, très dure. Ce n'est pas celui-là, c'est un autre. Dieu dirige. Il est souverain, c'est certain. Cela ne veut pas dire que la vie devient facile et qu'il fait que tout aille bien dans nos vies. Non, 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 pas du tout. Cela veut dire qu'il est aux commandes. Et il peut y avoir des épreuves, il peut y avoir des tempêtes, mais Dieu est aux commandes. Et je demande à Dieu de nous le rappeler ce matin. Parce que c'est extrêmement important de croire que Dieu est aux commandes. Deuxième point, Jonas prie. Enfin, chapitre 1, Jonas ne prie pas, il fait la sieste, une partie du temps. Et il explique qu'il craint le grand Dieu de tout l'univers. Mais il ne prie pas, en tout cas pas formellement. Et là, enfin, Jonas répond, si l'on peut dire, oui, répond aux appels de Dieu. Et Jonas prie. On ne sait pas dans quelle position il prie. Quelquefois, il nous faut beaucoup pour que nous prions. Je nous souhaite, je vous souhaite de ne pas attendre autant que Jonas. Et de ne pas attendre d'être dans des circonstances aussi rares pour enfin prier. Deuxième remarque concernant la prière de Jonas. Il prie les psaumes, Jonas. C'est flagrant. C'est étonnant. C'est instructif. Je vais en lire quelques-uns, quelques lignes de psaumes, pendant que vous pouvez parcourir Jonas 2 et Matthieu va réafficher Jonas 2. Donc vous avez sous les yeux Jonas 2. Et moi, je lis quelques lignes de psaumes. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie, et il m'exauce. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Parenthèse. À l'époque du psalmiste, c'était symbolique. Pour Jonas, c'est incroyablement littéral. Je reprends. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Et une dernière ligne. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. C'est toi qui fais vivre. Voilà. Si vous voulez les références, je peux vous les donner. Et il y en a à peu près 3 fois plus. J'en ai pris quelques-unes. C'est clair. Jonas prie, Jonas est inspiré par des psaumes. Cela nous rappelle plusieurs choses. La pertinence des psaumes, oui. La similitude des expériences d'un siècle à l'autre, d'un millénaire à l'autre. Parce que notre vécu devant Dieu, notre vécu sur terre, reste avec beaucoup de fondamentaux semblables, quel que soit le contexte. Cela nous rappelle l'importance de la parole de Dieu qui peut nourrir nos pensées. Et au passage, il peut être excellent de la mémoriser. Jonas n'a pas sorti son téléphone et son application Bible, ni même sa feuille. Jonas avait tout cela dans sa tête, et on le sait, ça correspond à tout ce que l'on sait de la culture de cette époque, et ça a duré, et de la place importante de la mémorisation, en particulier des psaumes, chez les Juifs. Importance de la parole de Dieu qui nourrit la pensée et que Dieu peut utiliser en toutes circonstances, y compris dans les situations difficiles. Ne nous privons pas d'être nourris par cette parole de Dieu, par la Bible. Ne nous privons pas de la mémoriser, je sais c'est difficile, mais ne disons pas « j'ai passé l'âge ». Dans la salle, on est nombreux à pouvoir à être tentés de le dire et à prier pour que les petits mémorisent. C'est très bien de prier pour que les petits mémorisent, mais ça, c'est pas bien du tout de ne pas le faire nous. Et on peut encore, promis, une association comme les Navigateurs nous donne de bons conseils. Un des grands objectifs de cette association chrétienne est de nous encourager à la mémorisation de la Bible. Point. D'exclamation, si vous voulez. Donc, il nous faut connaître cette Bible parce qu'elle nous aide, parce qu'elle oriente la pensée, parce qu'elle corrige la pensée, parce qu'elle nous met sur la bonne piste. Jonas prie. Maintenant, les deux thèmes particulièrement mis en avant. Dieu est un secours en tout temps. Voilà ce que Jonas va redécouvrir. Il prie vers ce Dieu qui peut le secourir. Jonas redécouvre dans l'épreuve que Dieu est un secours. Trouver un abri au bon moment, c'est génial. Mais connaître un abri où l'on vit, c'est merveilleux. Jonas a redécouvert que Dieu est un abri dans une situation extrêmement unique. Mais Jonas nous enseigne, par sa prière, que Dieu est un secours en tout temps. N'allons pas à Dieu que pour crier au secours, ne nous privons pas de crier au secours. Mais n'allons pas à Dieu que pour crier au secours dans les situations extrêmes. Souvenons-nous qu'il est notre refuge, qu'il est notre appui, qu'il veut être notre accompagnateur, notre guide en tout temps. Ne nous privons pas d'aller vers Dieu en tout temps, notre secours. Deuxième thème particulièrement fort chez Jonas ici, Dieu est le salut, et plus clairement, Dieu est le seul salut, le seul sauveur. Je crie vers toi, Seigneur, tu me réponds, j'appelle au secours, tu entends ma voix. L'eau m'arrive jusqu'au cou, la mer m'entoure, mais toi, Seigneur, tu me fais remonter vivant. Oui, c'est toi qui sauves, Seigneur. Dieu est le sauveur. C'est l'évangile. Tout l'évangile nous dit que Jésus-Christ est celui qui nous offre le salut et qu'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent nous offrir le salut. Osée 13 l'avait dit clairement de la part de Dieu, « Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu. Dès le pays d'Égypte, tu ne connais d'autre Dieu que moi. Il n'y a pas d'autre sauveur que moi. » Osée 13, 4. Et si à l'école du dimanche, vous avez appris vos versets il y a quelques dizaines d'années, cela vous fait probablement penser à un verset encore plus connu du Nouveau Testament, Actes 4, 12. « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Jésus-Christ est le seul sauveur. Il est sauveur pour tous. Nous avons été orientés ce matin par le thème de l'unité. La grande racine de toute unité, c'est qu'il y a un seul sauveur, un seul Dieu. Et je m'arrête quelques secondes pour rappeler que cela dérange beaucoup, que cela choque quelquefois beaucoup. Comment ça? L'exclusivisme de l'évangile. Un seul sauveur. Eh oui, ce n'est pas du tout que les chrétiens ont mieux compris que les autres. Ce n'est pas du tout que la philosophie de l'évangile est plus supérieure à la philosophie des autres religions. C'est qu'il n'y en a qu'un seul qui est mort. C'est tout. C'est ce que j'appelle une exclusivité de fait. Ça n'a rien de dénonciateur pour les autres. C'est un fait. Et nous en arrivons au point culminant de tout ce récit que j'ai relu avec vous ce matin. Jonas est resté 3 jours et 3 nuits, pas forcément à une heure près. C'est une expression habituelle dans la langue hébraïque, pour décrire une période qui dépasse un jour. Ça commence avant, ça finit après. Et on retrouve cette expression avec Jésus-Christ, pas forcément à une heure près, 3 fois 24, des mois 72. Non, mais c'est une longue période. Et le Nouveau Testament nous apprend que cette expérience de Jonas est clairement annonciatrice de celui que Jonas proclame comme étant le seul sauveur. Jésus-Christ va dire, plusieurs siècles plus tard, « Comme Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, il faut que le Fils de l'homme, lui-même, passe 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Matthieu 12, 40. Si notre Dieu est le seul sauveur, c'est parce que Jésus-Christ est le seul sauveur. Et c'est le point culminant de la révélation de tout ce chapitre. Ce n'est pas que Dieu peut permettre à un homme d'être quelques heures dans un poisson sous-marin. Ça, c'est un vrai miracle qui nous dit que Dieu est grand. Mais le point culminant du chapitre 2 de Jonas, c'est de nous annoncer que quelqu'un va subir la condamnation, Jonas a été condamné, à notre place, pour être celui que Jonas proclame, le seul sauveur. Oui, Jésus-Christ est notre salut. Il est celui en qui notre salut s'enracine. Il est le seul qui a pu dire « Tout est accompli ». Et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile que je suis heureux de nous rappeler ce matin. Conclusion, Dieu est souverain. Croyons-le. Repérons-le. Demandons à Dieu d'ouvrir nos yeux sur ce qui nous rappelle que Dieu est souverain. C'est tellement important de le savoir et d'en vivre. Dieu est un puissant secours, jamais dépassé par les événements. Les événements peuvent être très douloureux, mais Dieu n'est jamais dépassé par les événements. Croyons-le, repérons-le, vivons-en. Et puis allons à lui avec foi dans la prière. S'il vous plaît, n'attendez pas un gros poisson. Prenons le temps de nous recueillir, de prendre plus conscience de la grandeur de Dieu. Prenons le temps de lui dire notre adoration pour tout ce qu'il est, de lui exprimer nos besoins dans toutes nos situations difficiles. Et proclamons qu'il est le seul sauveur. Regardons à Jésus-Christ que Jonas ne connaissait pas encore, celui qui a été maudit à ma place, condamné sur la croix. Nous nous en sommes souvenus il y a quelques instants, pour que nous ne le soyons pas. Et adorons celui qui est l'unique sauveur, celui à qui nous devons la vie, parce qu'il nous a sortis du gouffre. Je n'ai jamais coulé dans la mer, mais je suis sorti du gouffre, promis, et je bénis Dieu.